C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Aujourd'hui dans C'est ludique, je te propose d'être une planète, un bébé planète, car il va falloir que la vie naisse sur celle-ci avec un maximum de biodiversité. Il te faudra des forêts, des déserts, des montagnes ou encore des océans. Voici Biomos, un jeu de Grisha German, édité par Subverti et distribué par BlackRock Games. Alors un biome est une unité écologique, elle fait référence à une vaste zone géographique qui partage un climat, une faune et une flore similaires, un ensemble d'écosystèmes aux conditions écologiques identiques tout simplement. Alors la mise en place est très rapide, chaque joueur va récupérer un plateau planète, ils sont recto verso car vous avez une version avancée, on va y revenir. Cette planète tout autour d'elle est creusée, c'est là où vous placerez les jetons terrain, il y a également un emplacement lune, on posera également sur la table 4 cartes biomes de base et 4 cartes biomes géants. Dessus, eh bien, sont indiquées des combinaisons qui devront être réalisées pour remporter les points. Enfin, dernière chose, on place tous les jetons mer, désert, montagne, glacier, forêt dans le sac. Vous en avez un 12 de chaque, vous en piocherez 5 pour commencer. À votre tour, vous allez choisir un jeton terrain parmi ceux disponibles au centre de la table. On en repioche 5 nouveaux hein, quand il n'y en a plus. Ensuite, vous placez le jeton terrain choisi autour de votre planète. Alors, il n'est pas interdit hein, de faire de la place ou déplacer les jetons, mais la seule façon autorisée est comme au taquin, hein, les faire glisser. On ne peut pas les repositionner autrement. On ne peut pas soulever un jeton une fois placé. Dernière action possible, hein, elle est optionnelle, c'est de valider une carte biome. Par exemple, il vous faut une forêt entre deux mers. Vous avez réussi à créer cette combinaison à l'instant T sur votre planète. Eh bien, vous pouvez prendre la carte. Elle vous donnera des points en fin de partie. Ensuite, vous remplacez la carte biome par une autre. En revanche, si vous aviez réalisé une carte biome géante, eh bien, celle-ci ne sera pas remplacée. Je vous ai dit que sur votre plateau, il y avait un espace creusé pour votre lune. À tout moment, le jeton que vous prenez, vous pouvez le poser sur cet emplacement. Cela vous fera gagner 3 points par terrain présent dans votre planète. Exemple, j'ai mis un jeton mer dans ma lune. En fin de partie, j'ai 4 mers, ça me fait 12 points, car 3 x 4 égale 12. En posant votre lune, c'est la seule façon également de repositionner un de vos jetons autour de votre planète en le soulevant si vous le souhaitez. La partie s'arrête dès que tous les joueurs ont complété leur planète, c'est-à-dire 12 terrains de posée plus la lune. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. On va comptabiliser les points des cartes biome et la lune. Si vous voulez un petit peu plus de difficulté, vous pouvez retourner le plateau. Chaque plateau possède 2 espaces libres supplémentaires à remplir pour terminer son plateau planète. Mais attention, ces 2 jetons terrain posés sur ces emplacements ne pourront pas bouger par la suite, même en les faisant glisser. Cependant, ils servent quand même à valider des biomes. Dans cette variante, avant de valider une carte biome, on pourra, si on le souhaite, déclencher un événement, irriguer un désert, ça permet de remplacer un désert à côté d'une mer par une forêt, geler une mer, permet de remplacer n'importe quelle mer à côté d'une montagne par un glacier, étendre un désert permet de remplacer n'importe quel terrain à côté d'un désert par un désert, ou enfin casser une glace qui permet de remplacer n'importe quel glacier par un terrain pioché au hasard. Subverti, c'est un éditeur engagé et Biomos répond à leurs principes. Alors faut-il continuer à valider des biomes de base ou tenter les géants pour marquer plus de points? Eh bien chaque joueur aura sa stratégie. Avec cette mécanique originale de glissement, Biomos est une petite pépite dans l'univers des jeux autour de la biodiversité. A noter aussi les illustrations magnifiques de Baptiste Pérez. Enfin, dernière chose, Biomos a obtenu le trophée Flip Éditeur Écoludique il y a quelques semaines du côté de Partenay.
C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le vendredi, une fois n'est pas coutume, c'est Ludo qu'on retrouve. Salut Ludo.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, on va parler des jeux, ce qu'on dit éco-responsables.
Ouais, exactement. Et pour ça, on va prendre deux exemples, un poil différent.
Ouais.
Et on va commencer par Cartzel, et notamment le Cartzel Full. Cartzel, c'est un jeu qui est édité par les Jeux au Plat. Pour un joueur et à partir de 8 ans sur celui-là, Cartzel, c'est un concept qui a été inventé donc par Florent Toscano et Juan Rodriguez. Et sur ce jeu, on a aussi David Bonifati qui se rajoute aux règles et aux images, c'est Jacques Lerouge. Alors,
c'est une forme Cartzel, de grand puzzle, c'est ça?
Oui, voilà. En fait, Cartzel, c'est un jeu où il y a des cartes qui sont recto verso et on va nous demander de reconstruire des images. Donc, il y a 2 images par paquet. Façon puzzle, mais avec des cartes. Et puis, ça va un peu plus loin, parce qu'en fait, une fois qu'on a fini, on va dire, cet exercice un peu classique, qui est quand même un peu moins que le puzzle classique, mais bref, on va nous demander de faire d'aller plus loin et d'essayer de relever des défis.
Ouais.
Alors, full, pour moi, c'est vraiment celui qui beaucoup plus représentatif de la gamme de cet éditeur parce que c'est pas qu'un jeu, c'est fait aussi en partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.
D'accord.
Et notamment, ça permet de découvrir la science des foules, qui est quelque chose de très très sérieux, donc par le jeu et qui est fait d'après donc l'exposition qui a débuté en octobre 2022 et qui se termine le 7 janvier 2024, donc il y a encore un peu de temps. Et c'est une exposition qui a été réalisée avec la collaboration de Mehdi Moussaïd.
Okay.
Donc voilà, donc c'est intéressant de voir aussi qu'avec un jeu, on peut aussi parler de choses très sérieuses et les jeux au plat le font très très bien.
Bien sûr, alors, tous leurs jeux hein, sont fabriqués en France, je crois.
Voilà, en fait c'est une vraie stratégie des jeux au plat, c'est-à-dire que la fabrication en France, donc le choix du matériel, est une contrainte obligatoire pour pouvoir sortir un jeu. Donc du coup, ils ont une démarche écologique très forte dans leur travail d'éditeur. Ils sont tous développés et éco-fabriqués en France. Donc il y a deux effets à ça, hein. Il y a l'effet environnemental, forcément, ça limite l'impact carbone, et économique aussi, parce qu'ils partent du principe que c'est quand même plus chouette de donner des sous à ceux qui seront les potentiels acheteurs de leur jeu.
Et alors, si je dis pas de bêtises, Ludo, je crois qu'ils sont éditeurs et même distributeurs.
Oui, exactement. Ils font les deux, bah, justement, aussi pour pouvoir maîtriser, on va dire, l'ensemble de la boucle de leur jeu. Et du coup, on va faire un petit tour géographique, juste pour t'expliquer un petit peu où est-ce que c'est fait.
Ouais.
Donc, pour les cartes, c'est fait en Meurthe et dans le Doubs.
D'accord.
Pour le tissu, parce que parfois, il y a du tissu dans leur jeu, c'est fait dans les Vosges. Les tuiles sont aussi faites dans le Doubs. Les billes, il y avait un jeu super avec les billes qui sont faites en Haute-Vienne. D'ailleurs, c'était les dernières billes de fabrication artisanale en France. Les jetons et les pions sont faits dans le Jura, les dépliants sont faits dans le Corrèze, les boîtes dans la Drôme et les livrets dans l'Hérault.
D'accord, ok.
Et du coup, il n'y a pas d'export non plus chez les jeux au plat.
Ah hein, oui,
tu vois,
ils vont pas faire
des sorties en France.
D'accord.
Non.
Ils n'auront jamais le Spiel alors.
Alors bah oui et non, parce qu'en fait, les jeux sont éco-fabriqués localement par des licences qui vendent à des distributeurs étrangers.
D'accord.
Eux ne vont pas fabriquer, mais ils vont vendre les licences. Donc pour eux, c'est quand même mieux pour la planète et pour les économies internes des pays. Mais bon, après, ils s'expliquent qu'aussi, bah, ils s'interdisent certains contrats parce qu'ils ne peuvent pas tout accepter non plus.
D'accord.
On va donc du coup parler de Splito.
Oui.
Splito, c'est une autre démarche, mais j'avais été interrogé par un petit logo rond écrit avec un petit drapeau français qui était dessus.
Ouais.
Et qui n'est pas présent sur toute la gamme de Blam.
Non.
Splito, donc, c'est fait par Blam, qui était aussi un éditeur français. C'est un jeu de pose de cartes et d'optimisation un poil taquin. Hein.
Oui.
Très compétitif. C'est créé par Luc Raymond et Romaric Gallonnier. C'est magnifiquement illustré par Maud Chalmel. 3 à 8 joueurs, 8 ans et plus pour des parties de 20 minutes. C'est fourbe, mais c'est marrant à jouer. C'est des cartes qui sont dans un format un peu particulier, assez longue, très fine, pas très très grande. Et donc, c'est très très riche en couleurs et en picto. Donc Blam, moi j'ai eu la chance de pouvoir converser avec Christian Molinari, qui
ouais.
est donc son patron.
D'accord.
Et de parler effectivement de cette démarche de fabrication en France. Donc il nous explique qu'en fait il fabrique en France, lui, c'est pas une contrainte obligatoire. Par contre, quand le jeu rentre dans les bons critères, la France va être en fait la production privilégiée.
D'accord.
Et notamment quand c'est pour le marché français et quand c'est viable financièrement.
Oui.
Là, ils vont choisir, effectivement, de pouvoir fabriquer en France. Donc, il nous dit aussi qu'il constate avec regret que si les volumes venaient de vente à trop baisser, il serait difficile, en fait, de pouvoir maintenir cette production en France. Pour le moment, ils ont pris le parti d'y rester pour les jeux qui sont composés uniquement de cartes, de livrets et de boîtes.
Ouais.
Donc, c'est le cas de Splito, mais c'est aussi le cas de Carte Aventura
ouais.
ou de Connecto, hein, par exemple.
Mm-hmm.
Pour les autres jeux qui nécessitent autre chose, ben ils font d'autres choix. À titre d'exemple, sur leur dernière prod en cours, ça leur a coûté 7000 euros de plus que s'ils avaient tout fait fabriquer en Pologne. Par
D'accord.
exemple. Donc ils auraient pu, effectivement, ils nous expliquent, mettre ce budget dans de la com, dans des salaires. C'est aussi une démarche pour pousser les imprimeurs à faire des efforts en fait par rapport à leurs tarifs. Et donc, il espère que ça pourra être fait le plus longtemps possible parce que, selon lui, c'est quand même une bataille un peu quotidienne. Il a une deuxième société qui s'appelle Abeille Games On Demand, qui est une société qui est plus, en fait, dans le B2B, qui est une société qui va pas avoir de clients tout public, mais qui a quand même pour pour en tout cas pour mission de pousser le Made in France dans le jeu de société auprès des éditeurs. Et donc ils ont quelques petits faits, des faits d'armes assez importants. Ils ont réussi à faire revenir en production en France des jeux comme Monique ou Focult,
d'accord,
chez Gigamic, donc là qui sont des jeux avec des cartes et qui sont vraiment très axés très grand public. Qui plaisent un peu moins aux gamers, c'est un peu comme les Janquis chez un petit éditeur qui s'appelle Schwick, ou des petits jeux de cartes chez Ozu. Donc là, ils ont une vraie volonté, mais ça passe malheureusement obligatoirement par des volumes minimum élevés pour y arriver et rester sur ce modèle financier. Donc lui, leur stratégie, c'est pas le Made in France à tout prix. Tu vois, contrairement à Jeoplat où ça doit rentrer dans ce genre de critères et que tous les jeux sont faits en France, donc ils doivent coller à des matériaux qui vont être faits. Chez Blam, c'est différent.
S'ils veulent faire un jeu, ils le feront même s'il n'est pas fabriqué en France.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mettre en péril, et notamment l'équilibre financier de la société. Donc ils vont se laisser la possibilité de faire des productions ailleurs dans France quand ce n'est pas viable. Et il m'a donné un exemple aussi par rapport à ça, le jeu Enquête Express, où ils doivent faire un reprint, là c'est tout frais actuellement, sur un volume qui est inférieur à 5000 exemplaires.
D'accord.
Donc, et du coup, ils vont. Donc c'est pas viable ça en France par rapport à ce jeu.
D'accord.
Donc ils sont repartis en production en Pologne, mais attention, ça veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas des exigences et un cahier des charges qui va dans ce sens-là, parce qu'ils ont quand même une démarche éco-responsable, et notamment avec du cellophane qui est biodégradable autour des cartes, et du papier et du carton FSC, avec des forêts replantées, etc., etc. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas avoir une démarche, que la France est obligatoirement dans la boucle de la production éco-responsable. On peut aussi maintenant... on va dire imposer aux fournisseurs, aux usines, aux producteurs de cartes et de pions, etc., qui sont en Europe, de travailler aussi avec des contraintes éco-responsables.
Bien sûr.
Et puis, à l'heure actuelle, Mathieu, je te dirais aussi que la production de beaucoup, beaucoup de jeux commence en fait à quitter l'Asie, parce que les prix de la matière première et des salaires, donc de l'humain,
et du transport aussi,
fortement augmenté, et que on arrive à des productions qui, en plus avec les transports, comme tu le dis, et la crise qui s'est passée, et le fait de ne pas être sur place aussi, qui fait qu'on n'a pas non plus la main,
vérifier,
en tout cas la réactivité nécessaire, font que on assiste quand même. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie grosse tendance, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est quand même à noter, à pointer du doigt, à montrer du doigt et à informer aux gens. On commence à avoir une production qui commence à revenir un peu en Europe, avec pas toujours la France, parce qu'il y a des choses qu'on...
Bah après, c'est compliqué. Hein,
pas possible, mais ça peut être la Pologne, la République tchèque, l'Allemagne, etc.
On l'a vu notamment dernièrement avec le jeu le plus vendu actuellement en France, Trio. Trio est un jeu qui est fabriqué en France, mais ils ont dû enlever des choses pour pouvoir le fabriquer en France, et notamment les belles cartes dorées qu'on avait vues à Vichy, quoi.
Ouais, voilà, effectivement, disons qu'il y a encore des choses où techniquement c'est pas possible parce que ça coûte trop cher.
Mais ils ont fait le choix quand même de rester en France, de sortir Trio en France.
Il y a une vraie, je te dirais, pour résumer tout ça, il y a une vraie prise de conscience aussi des éditeurs. D'ailleurs, je sais que la WEJ, l'Union des éditeurs de jeux, c'est un sujet important pour eux, l'éco-responsabilité, en tout cas pour des éditeurs, on va dire, de petite et de moyenne taille. Il se pose vraiment la question, il y a une vraie prise de conscience, des réunions autour de ça, et notamment sur la dernière prime aussi écologique que l'État impose aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs questions qui tournent autour de ça, mais on peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. En tout cas, ce que je vois maintenant, chez Ravensburger, les boîtes ne sont plus filmo-lucées.
Oui. Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, les boîtes arrivent en carton directement, et il n'y a pas de protection avec un voile en plastique.
Non, il y a juste des petits autocollants, des petits autocollants, des petites étiquettes.
Exactement, qui vont venir, comme chez Ozu par exemple, là j'ai vu ça, qui vont venir bloquer la boîte en fait, des petits autocollants repositionnables, donc qui normalement n'abîment pas. Alors, Chez certains, ouais. Je te dirais que ça marche moins bien.
Hein.
J'ai d'autres exemples, mais on n'est pas là pour pointer du doigt les mauvais trucs, parce que ça part quand même d'un bon sentiment.
Ouais.
Et puis, bah, c'est pareil, on assiste aussi...
Alors, à contrario, ça plaît pas à tout le monde, ça.
Ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, il y a beaucoup plus de boîtes qui sont abîmées aussi.
Ouais, et puis du coup, au niveau de la revente, c'est un peu plus compliqué.
Ouais,
j'ai l'impression.
Exactement. Tu as raison. Bah, c'est-à-dire qu'on peut pas, du coup voir si le jeu est vraiment neuf ou pas, parce qu'on lui enlève, il l'a pas. Mais maintenant, on sait que chez Raven Splendor, c'est comme ça.
C'est un problème pour les boutiques, hein, notamment.
Ouais,
c'est un
problème pour les boutiques. Bah, je t'ai dit aussi, il y a des retours de boîtes aussi qui mangent un peu chaud dans les transports. Mais bon, en même temps, moi, je pars toujours du principe que le jeu, il est à l'intérieur de la boîte.
Ouais.
Il n'est pas à l'extérieur de la boîte. C'est toujours un peu embêtant d'avoir un petit POC sur une boîte, mais bon, voilà, il faut aussi relativiser les choses. Et à l'intérieur aussi, hein, maintenant, les blisters de cartes, il y en a de moins en moins en plastique. On a parfois des petits morceaux de papier, en fait, qui viennent tenir les cartes. Moi, je fais partie aussi de ceux qui constatent que parfois, il y a des thermoformages. Tu sais, le thermoformage, c'est le la chose en plastique ou en carton qu'il y a à l'intérieur des boîtes pour venir ranger ton jeu, mais du coup qui va en fait faussement occuper l'espace.
C'est-à-dire
qu'une fois que tu l'enlèves, tu vas te retrouver avec des jeux et en fait des choses qui vont nager dans la boîte. Alors, il y a des raisons très économiques à ça aussi, hein, sur les tailles de boîtes, les prix psychologiques et les prix qui sont en fonction des tailles de boîtes dans les magasins. Et la visibilité de ta boîte, hein. C'est sûr que les cartes Zoll, je pense qu'ils vendent aussi un présentoir de temps en temps, tu vois, pour les boutiques, parce que sinon c'est un peu noyé. Donc il y a beaucoup, beaucoup plus de données et d'informations et en fait de contraintes qu'on pense qui viennent toucher donc aussi à ces choix en fait, hein, de production de certains éléments dans un jeu.
Eh ben, merci beaucoup, Ludo. On aurait pu longtemps encore parler.
Oui, effectivement, et on en parlera encore longtemps.
Et exactement, exactement. Merci, et on se retrouve lundi pour l'info ludique.
Pour le dernier info ludique de la saison.
Exactement, le dernier de la saison. Et puis après, ça reprendra au mois de septembre avec une nouvelle équipe, hein, dont bien sûr tous ceux qui font partie de l'équipe actuelle continuent. Je précise parce qu'il y en a qui disent « Ah, il y a une nouvelle équipe, mais ils ne restent pas les autres. »
Mais alors les autres, ils s'en vont et tout. Non, on n'est pas remplacés, on est complétés.
Voilà. Merci beaucoup, Ludo, et
bon
à lundi.
Week-end à
bon week-end. Salut.
Salut.